다른 생각 다른 시술.
감사하고.
Depuis deux semaines, il semble avoir un choc post-traumatique dans l'Église depuis mon message. Et là, j'ai eu à peu près 22 questions. En fait, c'est une question, mais 22 fois. Non, ça ne sera pas aussi traumatisant ce matin. En fait, depuis quelques semaines, on vous annonce qu'on fait une série sur pour se préparer pour le 14 octobre. Et nous sommes quelle date? Ah, nerveux. Mais en même temps, je suis rempli d'espérance, j'ose espérer. Et aujourd'hui, c'est le dernier message dans cette série sur la repentance. Et le message va se diviser en deux parties. Je n'ai pas l'intention de traiter de ce qui va se passer cet après-midi. Je l'ai fait il y a deux semaines, c'est correct. Mais c'est quoi la repentance? Et le message va être en deux parties. La première, c'est une introduction générale au sujet de la repentance et je n'ai pas l'intention ou la prétention de traiter tout ce que la Bible dit sur la repentance, mais plutôt donner une idée globale. Et ma deuxième section va être plutôt sur un passage des Écritures qu'on va voir dans 2 Corinthiens chapitre 7, 8 à 11. Et j'espère que mon titre vous choque. C'est la seule diapositive de mon PowerPoint à 2 heures du matin. J'aime la grâce de Dieu, pas vous? Je ne le lirai pas, mais je m'étais fait une page de tous mes défauts. Ouais. J'ai arrêté là. Ça, c'est juste ça que je peux dire en public. Tu peux-tu parler à ta femme? Pas une cabane à sucre, mais je ne vous cache pas que malgré que le message n'est pas dur au sens où je veux shaker, ébranler vos fondations là, sur cette journée du 14, mais malgré tout ça, je dois avouer que c'est le message le plus difficile que j'ai eu à préparer. J'étais un pêcheur racheté. Et là, j'ai toute ma liste qui est là, et aujourd'hui, j'aimerais ça avoir deux choses de votre part. La première, c'est être ouvert à recevoir la parole de Dieu. La deuxième, c'est rester dans votre idée que je suis une personne rachetée tout comme vous, si du moins vous l'êtes. Et si on parle de la repentance, c'est souvent négatif. Parce qu'on va traiter du péché, puis on est coupable, puis on est, tu sais. Et là, tout tourne, puis tous les messages de repentance, il me semble, je ne sais pas, là, mais ils sont tout le temps négatifs. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça l'apporter d'un point de vue positif, au sens où ce que la repentance est source de vie. Une considération que j'aimerais faire sur la repentance. La première, c'est celle-ci, c'est que le premier mot de notre Seigneur Jésus, quand il a commencé son ministère public, du moins qu'il nous est reporté dans les Écritures, c'est pas le mot grâce, c'est pas le mot paix ou amour, mais repentez-vous. Matthieu 17. Dès lors, Jésus commençait à prêcher, à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Parce que l'enseignement de la repentance est intimement lié et connecté avec un paquet d'autres enseignements dans la Bible, surtout celle du péché. Et Jésus, dans le fond, présuppose le péché. Et il peut lancer son message à tout le monde de dire « Repentez-vous » parce que, dans le fond, nous le sommes. On en a besoin. Mais Jésus, ce n'est pas la seule fois. En passant, c'est le même message que Jean-Baptiste annonce. Mais si on tourne dans Luc, et je vous invite à tourner, parce que j'aimerais que vous voyiez de vos yeux le texte de Jésus, des paroles de Jésus. Dans Luc chapitre 13, simplement lire les versets 1 à 5. Il parle de la repentance. En ces temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens. dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice, et il leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles aient été coupables plus que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Que ceux qui étaient dans les tours à New York étaient de plus grands pécheurs que vous. Vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Parce qu'au Japon, en Haïti, à toutes les places, il y a l'équivalent de 3 tsunamis de sida en Afrique. Pensez-vous qu'ils sont tous plus coupables que vous parce que vous, vous êtes en santé, vous avez 3 repas par jour? Jésus nous dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez tous périr pareillement. Exemple que Jésus nous donne. Le premier est lié à un échec moral. Pilate qui a fait quelque chose, puis là, c'était pas correct. Puis là, il a péché impliqué là-dedans, puis là, il périt. L'autre, une catastrophe qui semble naturelle, une tour qui tombe puis qui tue du monde. Mais notez que le ton que Jésus utilise semble être pesant et urgent. Les conséquences sont graves. Jésus sait que tout le monde périt. En fait, la marque des personnes qui ne sont pas régénérées, qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne mettent pas leur foi en Jésus, c'est qu'ils sont attirés par leur désir, qu'ils l'éloignent de lui, ce qui fait que Jésus dit, si tu ne te repens pas de ça, tu vas périr. L'Évangile, c'est pas juste de faire des bonnes actions, de manifester de l'amour envers les autres, mais c'est un changement radical, une transformation radicale de vie, une transformation profonde. La deuxième chose que j'aimerais dire pour la repentance, c'est que la foi et la repentance sont des dons de l'esprit qu'on ne peut pas séparer. Quand on regarde dans la Bible, souvent on peut les interchanger un ou l'autre. Par exemple, dans Marc 1, il dit « Repentez-vous et croyez ». Dans Matthieu, il dit « Repentez-vous ». Dans Jean, c'est intéressant, il n'utilise jamais le mot « repentance ». Lui, c'est « croyez », car Dieu a tant aimé le monde afin que ceux qui croient. Il faut que vous croyez. Regardez un autre texte, on peut voir l'échange dans Actes 17, ça aussi c'est beau, Actes 17. Je peux vous le lire aussi, au verset 30. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Donc, le message de Paul, il faut qu'ils se repentent. Au verset 34, « Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. » Ce qui est clair, c'est que ce sont deux notions différentes, ce n'est pas synonyme. La foi est toujours repentante. Et la repentance est toujours croyante. Il n'y a aucune régénération, nouvelle naissance qui s'exprime sans la foi ni la repentance. Mais c'est quoi la repentance? Simplement, la repentance, ça nous prend au moins deux choses. C'est reconnaître que l'on a commis une faute envers Dieu. Et se repentir implique que je me détourne de ce péché. J'ai fait un péché qui est contre Dieu et je me détourne. Je fais un 180, c'est un demi-tour. Ça, c'est la définition simple que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais se repentir, c'est revêtir l'attitude d'une créature face à son Créateur. J'arrête de me faire mes petites idoles à moi, je change de direction puis je marche pour Dieu. Dans la première lettre de Thessaloniciens, Paul dit « Je me réjouis de ce que vous vous êtes détourné des idoles pour suivre le Dieu vivant. » Bel exemple de la repentance. Je me tourne. C'est une attitude consciente fondée sur l'humilité qui me pousse à rejeter le péché pour marcher en sainteté pour Dieu. Il y a un auteur qui disait, c'est la détermination à vivre devant la face de Dieu. Je vis comme si Dieu était toujours face à moi. En résumé, la foi, c'est l'individu qui met sa confiance en Christ. La repentance, c'est l'individu qui se détourne, qui abandonne son péché. Et un ne va pas sans l'autre. La considération que j'aimerais faire, c'est par rapport à mon titre. Comme de dire, ne gâchez pas votre péché, prophétisez-en pendant que tu es dedans. Non, c'est pas ça que je dis. Faut que tu en profites au max, tu es deux pieds dedans. De toute façon, tu es déjà dedans. Fait que profite-en. Non. Je suis pas en train de vous pousser à pécher afin de ne pas gâcher quelque chose, justement. Tu sais, c'est pas ça le but, non. En fait, il y a une logique derrière mon titre. Et la logique est celle-ci, c'est en trois points. D'ailleurs, le premier, c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer, mais qu'on va regarder un petit peu plus précisément. Première proposition, le péché est toujours néfaste, grave, mortel, dirigé contre Dieu. C'est une atteinte à la gloire de Dieu. C'est une déclaration d'indépendance à l'égard de Dieu. Et pour ça, on mérite le jugement. Deuxième proposition, le péché produit toujours en nous des effets et autour de nous, comme par exemple la tristesse, la culpabilité, la honte. Proposition, par conséquent, il faut utiliser ces expériences, premièrement pour le salut et deuxièmement pour la croissance, la maturité, et non un arrêt, une stagnation, un manque de mouvement dans notre marche chrétienne. L'éthique se base sur la théologie. La théologie, c'est celle-ci. La repentance tire sa source de la grâce de Dieu. Hein? Que la repentance tire sa source de la grâce de Dieu. Le premier point de la logique, dans le fond, c'est qu'on est mort. On est coupable. La Bible, quand elle parle du péché, c'est le sujet le plus clair qu'il n'y a pas. Le plus clair. Éphésiens 2, 1 à 5. Juste lire le texte est clair. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince, la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi étions de leur nombre. Nous tous. Et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a donné la vie par la grâce. Un penchant naturel à la désobéissance et à l'autonomie, à marcher comme si Dieu n'était pas présent. Et ça nous place dans une position de recevoir un jugement qui est juste. Parler du péché. Ça, d'ailleurs, on peut en faire des listes. On veut, dans notre société, même pas la nommer. Ma première année d'université que j'ai fait, je l'ai fait en psychologie. Suite à 3 ans d'études en sciences humaines. Bon, 3, pourquoi pas 2? C'est parce que j'étais con. Mais c'était pas sur ma liste, un autre. Quand on utilisait le mot péché dans nos cours en psychologie, en fait, c'était pour nous dire qu'il ne faut pas parler de ce sujet. C'est fou. Et là, on fait tous nos efforts pour nier son existence ou encore le réduire à quelque chose de strictement religieux. Parce que le péché, ça fait augmenter la culpabilité en nous. Et ça, ben, ça a des effets néfastes. Alors, faut pas en parler. Alors, on lit des textes comme Richard Dawkins qui, lui, il dit, mais les chrétiens se focalisent d'abord et avant tout sur le péché, le péché, le péché, le péché, le péché, le péché, et encore le péché. Quelle méchante petite préoccupation que de le laisser dominer votre existence. C'est faux! Mal connaître la Bible. Nous sommes morts devant Dieu. Il n'a pas créé la croix. Il n'a pas déterminé la croix depuis l'éternité. Il n'a pas créé un lac de feu puis un enfer éternel pour notre séparation d'avec lui, pour communiquer à une humanité que le péché est insignifiant. C'est pas grave, mes amis. Juste sinon on est mort. Et toi? La repentance, Dieu donne la vie. Hein? La repentance tire sa source de la grâce. Le deuxième énoncé de la logique était celui-ci. Le péché produit toujours en nous des effets, et même autour de nous, comme la tristesse, la culpabilité, la honte. Et là, j'ai mis trois petits points dans mon... parce que la liste continue. Et là, je parle juste de ce qui se passe en nous. Je ne parle même pas de ce qui se passe vers l'extérieur, que mon péché peut produire des choses. Et là, on est rendu à la deuxième section du message. Je vous invite à tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 7. Et on va regarder ce texte formidable. Une erreur, j'ai marqué du verset 8 à 11, mais on va lire du verset 5 à 11. Tiens, chapitre 7, 5, si vous n'avez pas vos Bibles, écoutez attentivement. Car depuis notre arrivée à Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au-dedans, lutte au-dehors, crainte au-dedans. Mais Dieu, qui console les humbles, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation qu'il avait reçue de vous. Racontez votre ardent désir, vos pleurs, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas, même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse, selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus, quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tout égard que vous étiez pur dans cette affaire. Un résumé du contexte que j'ai trouvé en 15 points. Je l'ai réduit à 10 et je vais essayer de le faire en 5. Et pour qu'on comprenne pourquoi Paul en arrive à parler de cette tristesse qui est produite. Premièrement, c'est que Paul a écrit une lettre sévère qu'on voit au verset 8. Et la sévérité de sa lettre, et il semblerait que ce n'est pas un Corinthien. Une autre lettre, entre les deux, avec un ton vraiment sévère qui ne nous est pas conservé et qui Tite, qui est un messager, arrive avec une autre lettre. Les Corinthiens ont accueilli Tite, qu'on voit à la fin du chapitre, avec crainte et tremblement. Elle a écouté le résumé de Murray. Les Corinthiens se repentent de leur inaction sur ceux qui font du tort. Ils remédient à la situation et se préoccupent avidement de Paul. Versets 7, 9, 11 et 12. Avec leur réponse, Tite trouve un rafraîchissement et une joie. Paul, qui est en Macédoine, est abattu par diverses circonstances et rencontre quelque part Tite qui l'informera de leur tristesse qu'il subit. De leur repentance, de leur obéissance. Quand Paul a entendu la douleur et la tristesse des Corinthiens suite à la lecture de sa lettre, Paul le regrette, mais ses regrets sont de courte durée quand il entend parler de leur repentance. C'est tout le contexte et le résumé. Et si on tourne au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que je vous ai attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Paul ne veut pas, comme il dit d'ailleurs au début de la lettre, il nous a manqué, or je prends Dieu à charge à témoin, c'est pour vous ménager que je ne suis pas allé à Corinthe, non, que nous dominions sur votre foi. Paul n'est pas en train de dire je vous ai massacré. Je vous ai, d'ailleurs, ça me fait penser à ma prédication il y a deux semaines. Je vous ai rentré dedans. Waouh, c'est bon. Non, Paul il dit c'est bon parce que ça peut produire des choses. Sur le coup, je ne le savais pas que ça produirait des choses. Alors là, j'ai regretté. Coudon, j'ai-tu fait une bonne erreur? Et là, j'ai-tu fait une erreur? Pas une bonne erreur, une erreur. Et puis là, il dit quoi? J'ai été attristé moi-même, j'ai eu des regrets, mais de courte durée parce qu'elle a produit de la repentance. Et si ça produit de la repentance, il n'y a rien de regrettable là-dedans. Parce que la repentance, c'est de se détourner. Donc les Corinthiens se sont détournés de ce qu'ils faisaient. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils ont eu du zèle pour Paul. Ils rejetaient. Aucun repos dans son âme, dans son corps. Ils se tournent, ils changent, et maintenant ils sont zélés pour Paul. Dans notre société, et là, Paul parle beaucoup de tristesse et de joie, mais dans notre société, comme j'ai dit, la culpabilité, c'est quelque chose de mauvais. On ne veut pas parler de ça. Et d'ailleurs, la psychologie est le domaine scientifique d'études qui étudie la culpabilité dans l'humain. Ben pas juste ça, là, mais entre autres. La psychologie nous dit que la culpabilité nous nuit. Pourquoi? Alors, j'ai pris quelques notes. À tout le moins, dans la majorité des cas, ça nuit à notre estime de soi, à notre image de mon moi. Ça déforme mon image, ça déforme ma perception que j'ai de moi-même. Et là, il publie beaucoup d'articles là-dessus, que ce soit dans des revues scientifiques, que ce soit dans les librairies bon marché. Et puis là, on nous dit, là, avec les grands nombres de spécialistes, ésotériques, pas ésotériques, que là, la culpabilité est une des causes, sinon la principale, pour certains, du burn-out, suicide, violence conjugale, intimidation, baisse d'estime de soi, image de soi déformée, et toutes choses semblables. Pour d'autres, la tristesse ou la culpabilité, c'est moralement neutre. Je ne suis pas un bon athlète. Je dis, je suis triste, mais que voulez-vous? Culpabilité, c'est automatiquement bien. Toujours, tout le temps. Tu te sens coupable? Good, mon gars! Et là, on fesse là-dessus, et là, il faut arriver. Et le point, c'est simplement qu'il y a plusieurs formes de tristesse et ils ne sont pas toutes pareilles. D'ailleurs, Paul en donne deux. Et donne des noms différents. Une tristesse du monde et une tristesse selon Dieu. Il y a deux différences entre la tristesse du monde et la tristesse selon Dieu. Les résultats. Regardons la cause, la tristesse du monde pour commencer. Il est possible d'être triste selon le monde. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde arrive comme un contraste avec la tristesse de Dieu. C'est un contraste, autrement dit, c'est qu'il y a une tristesse qui est caractérisée par le monde, et une tristesse qui est caractérisée par des attitudes de Dieu, et l'autre, les attitudes du monde. Et quelles sont ces attitudes? Par exemple, la tristesse du monde, en fait, on pourrait l'exprimer comme ça, c'est une tristesse comme le monde l'expérimente. Et comment le monde l'expérimente? Comme ceci. C'est souvent une profonde détresse que nous avons envers nous-mêmes. On est désappointé de ce que nous sommes. C'est une tristesse qu'on expérimente dans notre esprit contre nous. Je suis une mauvaise mère. Pas assez. Dans la drogue, je regarde la pornographie, je vole. Je convoite. Je l'expérimente envers moi-même. J'ai fait quelque chose, je me suis fait pogner. Des choses là-dedans que vous n'avez pas faites et qui sont moralement neutres. Je ne suis pas un bon athlète. On s'en fout. C'est pas moral. Mais quand même, ce qui peuvent être produites. Culpabilité, honte, amertume, rancune, vengeance et choses semblables. Ce qui englobe pas mal beaucoup de choses. Voici une définition utile à la tristesse du monde. C'est une expression de regret lorsque l'on perd une opportunité ou engendrée par les circonstances ou un embarras personnel. Une expression de regret quand que je perds une opportunité. Ah! J'ai pas eu ma job! Cœur! Circonstance, je me suis fait pogner. Je m'étais pas fait pogner, j'étais correct! Embarras personnel, je me suis encore mis les pieds dans les plats. Habituellement, je suis bon là-dedans. Les résultats, bien, c'est assez direct. La tristesse du monde produit la mort. Il y a un nombre de faits qu'on peut dire sur ce genre de tristesse. Et là, écoutez bien, je vais faire une série de faits concernant ce genre de tristesse et de choses qu'il ne faut pas mélanger ensemble. Premier fait, la démonstration de larmes de tristesse peut rediriger l'affection des autres pour qu'il y ait des sentiments plus nobles à notre égard. Mais, ça ne change rien que ma relation avec Dieu. Les larmes ne me justifient. Deuxième, les pleurs et la tristesse peuvent produire ou atténuer notre sentiment de culpabilité, mais elles n'enlèvent jamais la colère de Dieu sur notre péché. La tristesse, la douleur même, peuvent augmenter nos sentiments d'espoir. J'ai réussi à pleurer, tu sais. Je dois être arrivé à repentance, tu sais, j'ai pleuré. Ça ne change absolument rien à votre situation vis-à-vis Dieu. Les larmes coûtent souvent moins cher que la repentance et sont souvent plus faciles. Mais confondez pas larmes et repentance. C'est deux choses distinctes. Les larmes de tristesse peuvent être parfois complètement orientées dans la mauvaise direction. Sixièmement, les larmes et la tristesse, la honte, parfois, trop souvent, nous font rester stagnants. Ils nous poussent à l'inaction dans notre marche chrétienne. Septièmement et ultimement, si vous ne vous êtes jamais repenti de vos péchés, pensez que Dieu va vous accepter comme que vous êtes, sans repentance, mais la Bible dit que vous avez un châtiment éternel qui plane au-dessus de votre tête que vous méritez. Les points est dur à communiquer, est plate à dire, tu sais, l'enfer, wow, c'est dur, mais nécessaire. Peut-être que vous n'avez pas la foi. Vous manquez de foi pour dire, ouais, j'aimerais ça suivre Jésus, mais confessez votre manque de foi. Ça ne demande pas une foi parfaite pour arriver à la repentance. Le critère, ce n'est pas la perfection. C'est repens-toi. Seigneur, je manque de foi, je vois que tu as raison, mais Seigneur, non. La repentance vous introduit dans la vie de repentance. C'est une introduction. C'est une introduction qui commence à agir pour la suite des choses. S'il y a une tristesse en dedans de vous, vous dites, tu sais, j'ai fait quelque chose, puis laissez-la travailler cette tristesse, qu'elle vous pousse vers Dieu, qu'elle vous attire à lui, puis que vous regardez à Jésus, puis dire finalement, c'est mon seule espérance, Jésus-Christ. Cette tristesse, si vous arrivez à la repentance, il est dit, c'est une tristesse selon Dieu. que je voulais vous apporter le sujet de façon joyeuse, et depuis tantôt, je suis là en train de marteler le clou du péché. Mais la joie ne vient pas toujours facile. Paul a dit des choses vraiment dures, attristantes, et ça, ça l'a produit, la joie. Suite à ça, parce que la repentance produit ça, c'est un fruit, la joie, c'est un fruit de la repentance. Autant pour le salut éternel, autant que pour le croyant. Et dans le Nouveau Testament, quand il parle de la repentance, souvent, la repentance, c'est pour parler de ceux qui vivent, qui sont caractérisés par le péché. Et là, ils doivent arriver à la repentance. Mais dans le texte, pas ici. Dans le texte, ce qui est surprenant, c'est que Paul parle à des chrétiens. Puis il dit, « Repentez-vous. » Pourquoi? La repentance nous introduit, la foi et la repentance sont souvent ensemble, je vous l'ai dit, ça nous introduit à une vie de repentance, à une vie de foi. C'est quand la repentance ne se limite pas à un acte ponctuel, mais elle conduit à un mode de vie. La repentance, c'est un mode de vie. Autrement dit, c'est soit que je suis caractérisé par le péché. C'est ce qui me caractérise. Je fais, je pratique, je désire ça. Ou je désire la sainteté. Je tombe, mais je me relève, puis je demande pardon, puis je veux marcher vers Dieu. Je veux être attiré par lui, je veux désirer. Et quand cette tristesse arrive, je me dis, coudonc, je veux essayer. Et lisez les psaumes, mais combien de psalmistes, combien de psaumes crient à Dieu parce qu'ils ont eu un échec. Ils crient à Dieu. Ils veulent voir Dieu agir. Et quelles sont les causes? C'est exactement ça la cause. C'est une tristesse selon Dieu. Dieu produit ce genre de tristesse. Je ne regarde pas le monde, comment que le monde va me percevoir. Je regarde les conséquences face à Dieu. Simplement, les dommages qui sont créés. Mais ça provient d'un cœur brisé, et attachez votre tuque, ce cœur brisé, c'est Dieu qui l'a produit. Dieu brise des cœurs, pas juste les femmes. Il brise des cœurs. Pourquoi qu'il veut nous amener au brisement? Pour briser notre autosuffisance, pour nous attirer à lui. Et ce genre de tristesse, c'est dominé par l'éternité au lieu du temporel. Elle est dominée par Dieu au lieu de ma chair. C'est le genre de tristesse qui regarde au cœur et non au matériel. Elle est dominée par un sens de la gloire de Dieu, cette même gloire qui est atteinte quand je commets un péché. Je n'ai pas glorifié Dieu, alors je me suis fait des idoles. Et faites la liste des idoles que vous voulez, mais chaque péché, c'est un manquement à rendre gloire à Dieu dans une chose donnée. Et la repentance, c'est quoi? Ça me pousse à considérer la gloire de Dieu, à changer mes motivations, à laisser mes idoles personnelles, à changer de direction. C'est le juste jugement de Dieu sur le péché. Les résultats. J'aimerais l'illustrer. Dans Apocalypse, il y a un texte merveilleux, chapitre 18, on était juste à côté ce matin. Il nous parle des marins. Et là, il nous dit, « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elles parce que personne n'achète plus leur cargaison. » Ah! Encore une situation, on n'achète plus. Et là, ils perdent de l'or, l'argent, les pierres précieuses. Et là, ils font toute une liste pendant deux versets. Ah! Circonstances. Tristesse du monde. Ils ne reconnaissent pas que ça les pousse vers Dieu. Au contraire, avec John Newton, qui est un marin, qui a vécu dans les années 1700, qui est un marchand d'esclaves, et qui a écrit à travers une tempête, il s'est converti au Seigneur, et il a écrit le plus beau hymne probablement connu, le plus sur la terre. D'ailleurs, il est chanté même dans des campagnes de rock, du gros heavy metal, puis à un moment donné, tout le monde arrête J'ai entendu parler de ça une fois dans un spectacle. Et là, après le gros rock heavy metal, on s'est mis à chanter Amazing Grace. Grâce infinie de notre Dieu. J'étais ballotté par les flots et Dieu est venu me chercher. Complètement différent. Et John Newton a milité avec William Wilberforce. Et malheureusement, John Newton est mort l'année et il n'a pas connu de son vivant. Il est mort l'année qu'ils ont déclaré illégale la traite des esclaves. Et il s'est battu toute sa vie contre ça. Complètement transformé, complètement changé, complètement. La culpabilité produit toujours en nous des effets autour de nous, comme la tristesse, culpabilité et honte. Par conséquent, il faut utiliser ces expériences, premièrement pour le salut, deuxièmement pour la croissance et la maturité, et non l'arrêt spirituel. Autrement dit, ne gâche pas ton péché. Ne gâche pas ton péché, parce que le péché, c'est toujours un gâchis, de toute façon. Mais reste pas dans cet état-là. Saisis l'occasion de tomber à genoux devant Dieu. Plus précisément, mon titre, « Comment faire face à nos échecs de sorte que notre vie ne sera pas un gaspillage. » Le point, c'est ça, c'est votre vie. Caractérisé par le péché, caractérisé par la repentance, mais le point, c'est votre vie. Gâchez pas votre péché, que ça vous pousse vers la repentance. Des choses. Oui, le péché fait des choses en nous, mais la repentance aussi. Il y en a toute une liste dans Corinthiens. C'est un zèle. Il y a, écoutez le verset 11, les fruits de la repentance, bien plus. Quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Ils ont tout accepté ça. Et ça produit un zèle pour Dieu. Et je crois que un des problèmes majeurs, et ça va être le... Je travaille vers la conclusion, là. Un des problèmes majeurs n'est pas nécessairement le péché chez le croyant. Oui, c'est un problème. Et souvent, c'est qu'on ne sait pas comment dealer avec la culpabilité, la honte et cette tristesse-là. On ne sait pas quoi faire avec. Comment dealer avec ça? Deux genres de tristesse. Une qui mène à la mort, et là, il parle à des chrétiens. Donc, il y a une sorte de tristesse qui est inactive. Et il y a une sorte de tristesse qui est active. Elle pousse à l'action. Elle pousse à la repentance. Elle pousse au salut. On trouve difficile, souvent, de se pardonner. On pourrait dire de se pardonner parce qu'ils n'ont pas pleuré. C'est cool. Là, je vais me sentir mieux après. Ben, les larmes, ça peut nettoyer les yeux. Pas le péché. Ça nettoie les yeux, ça nettoie pas le cœur. Qu'est-ce qui se produit en nous lorsqu'on prend conscience du péché? Quand la culpabilité m'envahit, comment combattre pour la sainteté dans ma vie? La celle-ci, par la foi. Par la foi repentante. La foi est toujours repentante et la repentance est toujours croyante. Dieu demande deux choses de vous. Que vos péchés soient punis et que vous soyez juste. Savez-vous quoi? On n'est pas capable de faire ni un ni l'autre. On est fait à l'os. Mon amour immesurable, il a envoyé Jésus-Christ. Pour mener cette vie juste pour nous, pour prendre notre péché et payer le prix. J'ai pas le droit de dire, quand Jésus dit « je te pardonne », j'ai pas le droit de ne pas me pardonner, de ne pas être poussé à l'action, à la repentance, à la vie, au zèle pour Dieu. J'ai pas le droit. La nécessité de la repentance est basée justement sur la sainteté de Dieu, mais la possibilité de la repentance est basée sur sa grâce. La repentance tire sa source de la grâce et elle produit la vie. Je cite Saint-Clair Ferguson qui dit, La repentance évangélique, le commencement et la continuation de la vie dans le respect de Dieu est toujours imprégné de la promesse et de l'espérance du pardon. Fin de la citation. Toujours imprégné de l'espérance du pardon. La foi repentante combat tout ce qui se dresse entre moi et Jésus-Christ. La marque de la foi qui sauve n'est pas la perfection, mais la repentance. La marque de la foi n'est jamais le péché. La marque de la foi, c'est un combat. Il se bat, pas avec des bombes, pas avec les armes nucléaires, pas avec les couteaux, pas avec la violence conjugale, pas avec l'automutilation, le suicide envers moi-même. La repentance se bat contre ce qui brise ma liberté. La liberté chrétienne, c'est d'être la capacité de dire non à ce qui me rend esclave, dire non au péché. Je suis rendu libre du péché. La foi repentante, c'est un. Elle fait de la grâce un fondement solide où ce que je peux faire Jésus le trésor de ma vie. Mon cœur se tourne vers Jésus. Je veux saisir Jésus. Et non pas en faire un prétexte pour vivre dans le péché, ne pas se repentir, garder de l'amertume, de la rancune, de la tristesse, et là, de la honte et tout ce qui s'ensuit. La foi repentante est attirée vers Jésus. Voyez la croix de Jésus comme un prétexte pour pécher, bien, vous avez besoin de tomber à genoux, mes amis. Deux applications vraiment très, très rapides. La première, soyez prêts à causer une tristesse selon Dieu. Là, je ne suis pas en train de dire vous devez écrire les lettres les plus dures qu'il y a à chacun, là. Mais prêt à faire reconnaître le péché chez quelqu'un. Facile. Causer de la tristesse, ça va causer un choc. Paul, quand il dit dans 2 Corinthiens, en parlant de ça, 12-21, « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'inconduite, des règlements et les choses qu'ils pratiquaient. » Il y a la possibilité de dire à quelqu'un qui est pécheur, même avec sévérité, d'une part, ça produit la repentance avec une mesure incommensurable de joie et de l'autre, Paul va arriver là puis il va se faire battre encore. Suis-je moi pour reprendre quelqu'un sur son péché, moi qui est pécheur? Je vous l'ai dit, c'est la prédication la plus dure que j'ai. Jusqu'au moment où j'ai réalisé, et hier soir j'ai réalisé, j'ai eu une paix dans ça. Qu'est-ce qu'on voit dans 2 Corinthiens? Deux choses. La première, c'est que les Corinthiens se repentent de leur inaction et de leur péché. Et la deuxième, c'est qu'ils vont reprendre ceux qui sont encore dans le péché. Je ne peux pas me targuer, voyez-vous l'équilibre? Je ne peux pas me targuer de dire, je vais aller reprendre, je vais dominer sur lui, sans nécessairement avoir moi-même une vie caractérisée par la repentance. Mais une fois que j'ai ça, je peux aller de l'avant. Il nous dit que c'est une marque d'amour pour un frère et une sœur. Il faut le faire dans une bonne attitude. Deuxième application, et c'est là que le bas blesse. Êtes-vous prêt à accepter, vous là, une tristesse selon Dieu? Soit pour le salut qui vous introduit dans cette vie de repentance, ou soit que vous êtes déjà croyant. Et mettez-vous à la place des Corinthiens. Paul qui écrit une lettre vraiment dure. Puis Paul il dit, « Hey les gars, les filles là, les Corinthes là, je vous aime. » C'est pas facile. Est-ce qu'on est prêt à être façonné par la parole de Dieu? Et mes amis, ne regardez pas à la parole des hommes, mais regardez à la parole de Dieu. Si c'est juste la parole d'un homme qui vous condamne, c'est pas si pire. Mais si c'est la parole de Dieu qui vous condamne, là, on est dans le trouble. Est-ce que vous êtes prêt à dire au Seigneur, je veux te désirer et accepter d'être brisé par toi. Je vais terminer avec le mot. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. Jamais! Jamais! Autant dans notre vie chrétienne, je ne peux pas regretter la repentance. Jamais! Et vous ne pouvez pas regretter de mettre votre foi ou votre manque de foi au pied de Jésus et dire « Je veux venir à toi. » Considérez. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est riche et vivante. Tous besoin de repentance. Nous avons tous besoin de tomber à tes pieds, d'une façon ou d'une autre, Seigneur. Moi, le premier. Je ne suis pas indifférent à mes frères et sœurs ici dans l'Église, et j'ai des luttes, j'ai des combats. Et de prier pour moi et chacun d'entre nous ne permet pas qu'on ait un cœur endurci. Aide-nous à comprendre cette joie de la repentance dans nos vies. Il y a une grande tristesse dans notre Église. Demander que ça puisse vraiment porter du fruit pour la foi, pour la repentance, pour la joie. Et c'est à ton nom qu'on demande ces choses. Amen.